Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Dans son message pour la 59e journée mondiale des communications sociales rendue publique samedi 25 janvier, le pape invite les communicants à rendre raison avec douceur de l'espérance qui est en nous. Les détails dans quelques instants avec la page consacrée à la semaine du pape. L'actualité de l'Église concernera également le jubilé du monde de la communication, premier rassemblement jubilaire sectoriel de l'année sainte. Nous parlerons aussi de la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec les secondes vêpres présidées par le pape François en la fête de la conversion de Saint Paul. L'actualité politique et sociale sur le continent africain nous conduira en République démocratique du Congo, au Soudan et en Somalie. La page sur l'invité du jour concernera encore une fois la situation qui prévaut dans le diocèse de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec la semaine du pape, présentée par Fabrice Baguendekere.
Eh bien, la semaine du pape a été marquée par plusieurs audiences, notamment l'audience générale de mercredi. Mais avant cela, parlons de ces rencontres du jour. Le pape a reçu dans la matinée les participants au jubilé de la communication. Les groupes étaient constitués de 900 journalistes et professionnels de la communication provenant du monde entier. Dans son discours distribué à toutes les personnes présentes, François a remercié tous ceux qui risquent leur vie pour rechercher la vérité et dénoncer les horreurs de la guerre. Il a également réclamé aux gouvernants la libération de tous les journalistes emprisonnés injustement. Cet événement constitue le premier rassemblement jubilaire sectoriel de l'année sainte. Dans la même matinée, le Saint-Père a reçu les recteurs des grands séminaires et propédeutiques de France. Reprenant une des phrases du Saint-Pape Paul VI, François a rappelé aux ecclésiastiques que l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Il les a ainsi appelés à un témoignage cohérent de vie chrétienne au sein de leurs communautés éducatives. Toujours dans la matinée de samedi, François a reçu le président du conseil de transition d'Haïti, M. Leslie Voltaire Alcun, qui a ensuite rencontré son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, accompagné de son excellence Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales. Il a également rencontré M. José Raul Molino Quintero, président de la République du Panama. Le Saint-Père a accepté la démission à la gouvernance pastorale du diocèse de Nouna au Burkina Faso, présentée par Mgr Joseph Sama. Il a par la même occasion nommé Mgr Gu Mukasa Sano du clergé de Bobo-Dioulasso, jusqu'à présent recteur du grand séminaire Saint-Pierre et Paul de Kasogine à Ouagadougou. Le pape a aussi nommé évêque de la Gouate en Algérie le père Diego Ramon Sario Cucciarella, missionnaire d'Afrique. Ancien doyen de l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques à Rome, Mgr Cucciarella était jusque-là professeur des matières islamiques à l'Université pontificale du Latran et consultant auprès du dicaster pour les dialogues interreligieux. Signalons aussi que le Saint-Père a présidé les secondes vêpres de la fête de la conversion de Saint-Paul à 17h30, heure de Rome. C'était dans la basilique Saint-Paul, hors les murs. Dans son message vendredi, à l'occasion de la 59e journée mondiale des communications sociales, le pape François a invité les agents de la communication à rendre raison à l'espérance qui est en chacun de nous. Dans un monde où les discours radicaux et de haine prolifèrent, le Saint-Père a livré sa vision d'une communication capable de faire de nous des compagnons de route de nombreuses personnes sans illusion ni peur. Et mercredi, au cours de l'audience générale qui a eu lieu dans la salle Paul VI du Vatican, le pape François a repris sa série de catéchèses sur l'espérance, Jésus, notre espérance. Le Saint-Père s'est pour cette fois focalisé sur l'annonce de l'archange Gabriel à Marie, celle de porter en elle le sauveur du monde, exhortant à apprendre d'elle à faire confiance en Dieu en toutes circonstances. Enfin, lundi, à l'occasion de son investiture en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique, le Saint-Père a adressé un message au président Donald Trump à qui il a exprimé sa proximité spirituelle. Alors que notre famille humaine est confrontée à de nombreux défis, sans parler du fléau de la guerre, le pape prie pour que Dieu guide les efforts du président américain dans la promotion de la paix et de la réconciliation entre les peuples.
En ce dimanche 26 janvier, à l'occasion du dimanche de la parole de Dieu et du jubilé du monde de la communication, le pape François préside la messe en la basilique Saint-Pierre de Rome. Au cours de la célébration, le Saint-Père confiera le ministère du lectorat à 40 fidèles laïcs, hommes et femmes venant de différents pays. Retour au message publié samedi 25 janvier à l'occasion de la 59e Journée mondiale des communications sociales où le pape invite à communiquer l'espérance. Comment apporter un message d'espérance aux auditeurs? Les témoignages de deux communicateurs venant du Bénin et Madagascar. La parole à Juste Hanlon, collaborateur de Radio Vatican au Bénin.
J'essaie de communiquer l'espérance. Par exemple, j'ai produit un certain nombre d'articles sur la question de l'immigration où je donne la parole à des jeunes qui ont fait l'expérience, une expérience migratoire, notamment clandestine, et qui, de retour, et partagent leur expérience, ce qu'ils ont vécu à travers la traversée du désert, de nuit, tout ça, espérant que ça puisse dissuader certains jeunes qui ont encore de pareilles velléités. Et de même, je communique aussi sur les initiatives qui sont prises au niveau pastoral comme au niveau social sur le continent, notamment au Bénin, et afin de donner des raisons aux jeunes qui me lisent à travers les articles ou qui me suivent à la radio, des raisons de continuer à espérer en l'Afrique. Et le pape Benoît XVI, quand il était en visite chez nous au Bénin en 2011, il disait à nos dirigeants, ne privez pas vos peuples de l'espérance. Et cette Afrique, donc, nous avons encore des raisons d'espérer en un lendemain meilleur. Et je pense que c'est un peu en continuité que s'inscrit le pape François lorsqu'il incite le monde entier, et l'Afrique y compris, qui est aujourd'hui l'église, dit-on, la plus florissante, à entrer dans cette dynamique de l'espérance, éminente vertu théologale.
De Madagascar, Miaja, un communicateur de Radio Don Bosco, est également présent à Rome pour prendre part au jubilé. Il nous donne son témoignage.
Après le lancement du thème du jubilé à la Radio Don Bosco, nous avons lancé des émissions sur les problèmes actuels et on essaie toujours d'amener les gens à penser positivement. Il y a aussi des émissions catéchèses dont on parle la parole de Dieu et d'amener les gens de penser positivement aussi. Donc on collabore avec des prêtres spécialistes de ce domaine. Ils partagent à partir de la parole de Dieu et à partir de la Bible. Et aussi, à la Radio de Moscou dispose aussi actuellement des pages Facebook. Et c'est à partir de ça aussi de cibler d'autres auditeurs. Et nous concevons des émissions. Là, par exemple, il y a des changements climatiques actuellement. On essaie de partager des astuces pour aider les gens à ne pas regarder ce qui ne va pas. Mais aussi, il y a d'autres initiatives en faveur de notre biodiversité. Et la Radio de Moscou aussi participe à des événements, des projections, débats. Et on est très actifs actuellement. Et on invite des jeunes, des chercheurs, des enseignants, du public lambda à parler de l'environnement et aussi de trouver ensemble c'est quoi la solution afin que nous puissions penser ensemble un avenir meilleur.
Propos recueillis au micro de Radio Vatican par Jean-Benoît Harel.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Quelques 30 personnes ont été tuées dans une attaque de drones contre l'un des derniers hôpitaux en activité à El Fasher, dans la région soudanaise du Darfour. Un bombardement sur l'hôpital saoudien vendredi soir a entraîné la destruction du bâtiment de l'établissement où les cas d'urgence étaient traités. Les attaques contre les infrastructures de santé sont monnaie courante à El Fasher. Médecins sans frontières a déclaré plus tôt en janvier que l'hôpital saoudien était le seul hôpital public avec des équipements de chirurgie encore debout. Au moins 3 soldats sud-africains ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats ont repris. Samedi, la communauté internationale exhortant le groupe M23, soutenu par le Rwanda, a stoppé son avancée sur la capitale provinciale Goma. Après l'échec d'une médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide de l'Angola, le M23 et l'armée rwandaise ont rapidement progressé ces dernières semaines en direction de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, quasiment encerclé par les combats. La RDC accuse le Rwanda de vouloir faire main basse sur les richesses de l'Est congolais, ce que Kigali conteste. Le président angolais João Lourenço a exhorté les partis au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo à reprendre leur pourparlers de paix qui avait échoué l'an dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir lundi en urgence pour discuter de l'escalade des combats dans l'est de la RDC. La réunion a été demandée par Kinshasa puis relayée par la France. L'armée de la région somalienne semi-autonome de Puntland a annoncé vendredi avoir pris le contrôle d'une base de commandement montagneuse stratégique du groupe djihadiste État islamique. Le père jésuite Antoine Kerouel nous introduit à la méditation avec les lectures du troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, dimanche dédié à la parole de Dieu.
Une longue chaîne de témoins nous transmet l'espérance annoncée dans la Bible et jusqu'à l'espérance qui habite l'Évangile. Chaque génération est invitée à rejoindre cette lignée de témoins. Chacun et chacune d'entre nous le fait selon sa propre vocation. Que la Bible invite à l'espérance, la première lecture de ce dimanche nous le rappelle. Néhémie rapporte que le scribe Esdras fait la lecture de la loi devant tout le peuple depuis le lever du jour jusqu'à midi. Et il s'exclame « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. » Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Que la vie de Jésus elle-même soit bonne nouvelle, nous en reprenons conscience dans l'évangile de ce jour. Jésus lit le prophète Isaïe devant l'assemblée réunie dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Et Jésus conclut sa lecture en déclarant « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Soyons-en assurés, nous qui désirons accueillir le message biblique jusqu'à cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile, nous relayons un message d'espérance tourné vers la vie. » Cette trajectoire se déploie au fil des siècles. À l'époque du gouverneur Néhémie et du scribe Esdras, le peuple d'Israël redécouvrait la loi dont il s'était éloigné et qu'il avait du mal à comprendre. Après la lecture du texte, il fallait que les Lévites traduisent et commentent le texte pour que le peuple puisse comprendre. La loi avait été enfouie dans tant de vicissitudes qu'elle avait été comme oubliée. Sans le service assuré par Néhémie, Esdras et les Lévites, le peuple d'Israël risquait de passer à côté de l'espérance à laquelle le Seigneur l'invitait. Pour sa part, Jésus lit un texte biblique, celui du prophète Isaïe, et lui aussi, il en dit toute l'actualité aux personnes rassemblées dans la synagogue de Nazareth. Une prophétie d'espérance s'accomplit. Enfin, dans l'extrait de l'évangile de Luc, lu ce dimanche, l'auteur indique qu'il s'apprête à écrire à son tour un exposé concernant les événements de la vie de Jésus. L'auteur reconnaît qu'il n'est pas le seul à rédiger un tel document, mais il en voit toute la nécessité pour transmettre les faits et paroles de Jésus. Il prend place dans la chaîne des témoins de l'évangile. Après 2000 ans, nous voici nous-mêmes membres d'une telle chaîne. Nous ne faisons pas partie de la foule qui écoute la loi, comme au temps d'Esdras. Nous ne sommes pas des témoins oculaires de la vie de Jésus. Et nous n'appartenons pas à la première génération des disciples de Jésus. Mais nous faisons l'expérience que l'espérance dont nous vivons est portée par l'Évangile. Selon notre propre vocation, nous racontons cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Nous ne le faisons pas nécessairement par des mots, mais plutôt par nos manières d'être dans notre vie familiale, amicale et professionnelle, dans nos traditions culturelles, dans nos pays. Ainsi, nous sommes véritablement part de ce que l'apôtre Paul appelle, dans la deuxième lecture de ce dimanche, le corps du Christ. Un corps composé de divers membres qui tous ont leur rôle à tenir pour témoigner de l'espérance qui est en eux, car chacun est nécessaire aux autres. Puissions-nous grandir dans notre appartenance à cette longue chaîne de croyants et devenir toujours plus profondément témoins de celui qui vient accomplir les Écritures. Puissions-nous tous nous soutenir mutuellement dans cette radicale expérience de vie.
Invité du jour.
La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est de plus en plus critique. La ville de Goma est au bout du souffle. Les principales voies d'approvisionnement de la ville sont bloquées tandis que des milliers de personnes fuyant les affrontements continuent de se déverser. L'ordinaire du lieu, Monseigneur Willy Ngumbi, suit avec attention l'évolution de la situation. On l'écoute.
Il y a la pression de la rébellion sur la ville, ce qui crée beaucoup de souffrance pour la population. D'abord, il y a déplacement massif de population. Déjà, des camps de déplacés. Vous savez, il y a plus de 2 millions et demi de déplacés de guerre autour de la ville de Goma. Donc, quand ils entendent les détonations des armes lourdes qui avancent vers la ville, les gens fuient. Or, c'est déjà une population déplacée. Alors, ça crée beaucoup de souffrance pour le moment. Et la psychose a gagné toute la ville de Goma actuellement.
Après plusieurs spéculations, la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu a été reconnue officiellement, ce qui doit augmenter l'anxiété. Quelles sont les dispositions jusque-là prises par le gouvernement? Y a-t-il déjà certaines mesures d'urgence mises en place?
La mort du gouverneur, bien évidemment, a ajouté encore à la psychose de la population. Et les dispositifs mis en place par le gouvernement, pour le moment, ils appellent au calme. Ils appellent au calme pour dire qu'ils sont sur le front et qu'ils ne laisseront pas la population comme cela. Ça, ce sont les messages qu'ils donnent pour appeler la population au calme. Et jusqu'à présent, les gens sont chez eux. Il y a les familles qui sont chez elles. Mais la grande souffrance, c'est celle de cette population déplacée qui ne sait plus où aller. Vous savez que la route donc, de Minova est coupée. Même sur le lac, les gens ne peuvent plus venir vers Goma. Donc, les denrées alimentaires deviennent rares. La vie devient très, très difficile. Les gens vivent très, 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 très mal. Comme vous savez aussi, il y a des morts. Il y a des morts, bien sûr, à cause de la guerre, mais aussi des morts par famine. Donc, c'est une très, très grande souffrance.
Quel est votre message à la population de Goma et du Nord Kivu en général?
D'abord, je voudrais vraiment dire à mes frères et sœurs qui sont à Goma que je souffre avec eux de cette situation. La grande tentation dans ces circonstances de chercher à se diviser, à tomber dans la stigmatisation les uns des autres. C'est pourquoi je voudrais vraiment les appeler à rester unis. C'est une situation de très grande souffrance. Nous devons rester unis, nous devons rester dans la fraternité de l'Église. À Goma, nous avons souvent des réunions avec tous les leaders des confessions religieuses. C'est pourquoi je voudrais vraiment demander que, en cette situation difficile, nous puissions vraiment rester unis. Nos frères qui sont dans les camps de déplacés, ils puissent, avec l'aide des humanitaires, pouvoir attendre que cette aide puisse arriver. Voilà un peu le message que j'ai à donner.
Et à la communauté internationale?
Je demanderai à la communauté internationale deux choses. D'abord, qu'elle fasse tout pour empêcher que la guerre n'entre dans la ville de Goma. Ça, c'est vraiment mon cri de cœur, qu'on empêche la guerre, les affrontements d'arriver dans la ville de Goma. Et la deuxième chose, c'est la mobilisation des humanitaires pour vraiment venir en aide à cette population qui, pour le moment, est en situation de famine, surtout les déplacés de guerre. On arrive quand même à ne pas oublier l'aide humanitaire pour cette population. Que vraiment qu'il y ait cette mobilisation pour venir en aide à la population de Goma en ce moment de grande crise.
Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, il répondait aux questions de Fabrice Bagendekere.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboilo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.
There is only one God.